Frères et sœurs, notre vie ressemble parfois à un exode, une marche au désert, et nous allons entrer dans une nouvelle période de confinement qui est l'entrée dans un désert. Un désert, c'est un lieu où il n'y a pas grand monde, et nous allons être privés d'une bonne partie de nos relations ordinaires. Un désert, c'est un lieu aride où l'eau et la nourriture sont rares. Et notre travail qui devait nous permettre de gagner notre pain est mis en danger, et notre pain spirituel est aussi menacé, car nous allons être privés de la liberté de nous réunir pour célébrer l'Eucharistie. Nous allons marcher dans le désert avec son aridité, mais le Seigneur marche avec nous, comme il marcha avec le peuple hébreu dans le désert à la sortie d'Égypte. Et en ce jour de la Toussaint, le Seigneur, sachant les forces dont nous avons besoin, vient à notre secours. Il nous fortifie en levant un coin du voile sur le terme de la route. Le Seigneur vient lever un coin du voile sur le ciel, sur le paradis. Car oui, cet exode aura une fin. Le chemin du désert aura une fin. Le chemin du désert nous mène à notre patrie véritable, le ciel, le royaume de Dieu. Et ce promis, et ce pays promis, est un pays où Dieu nous fait vivre, vivre véritablement. Et donc, en ce jour, pour gonfler nos cœurs de l'espérance, pour regonfler nos cœurs de l'espérance au souffle de l'Esprit-Saint, contemplons un instant ce que l'Écriture et la tradition nous donnent de connaître du ciel, nous donnent de connaître de la vie bienheureuse. Parce que parfois on se pose cette question en entendant le texte de l'Apocalypse, de la première lecture, la contemplation de Dieu au ciel, est-ce que ce ne sera pas ennuyeux à la longue ? Ben oui, au ciel, nous connaîtrons Dieu parfaitement, mais nous n'aurons jamais fini de le connaître. Cela semble un peu paradoxal, parce que si je connais parfaitement, est-ce que cela ne doit pas impliquer que j'ai fait le tour de la question ? Et si je n'ai pas fait le tour de la question, n'est-ce pas le signe que je ne connais qu'imparfaitement ? En fait, il y a deux citations dans l'Écriture qui se rencontrent. En Jean 4, Jésus et la Samaritaine, Jésus dit « Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ». Et puis dans le Siracide, on lit ceci, « Ceux qui me boiront, dit la sagesse, auront soif encore. » Et la première citation, elle évoque l'étanchement de la soif. « L'eau du Christ, l'Esprit Saint, apaisera le désir de mon cœur. Je ne serai pas déçu. » Je veux dire, vous avez enfin entre les mains ce roman dont tout le monde parle, mais finalement ça nous arrive de dire, tout le monde en parlait, mais ce roman était quelconque. On anticipait de déguster une part de tarte au citron, et bof, la crème est quelconque. Eh bien, nous qui pouvons connaître aujourd'hui la déception de notre désir ne sera pas déçu. Il rencontrera dans l'Esprit Saint ceux qui le comblent. Et en même temps, vous savez que aussi matériellement, on a fait cette expérience, en lisant peut-être votre série préférée, on fait cette expérience de la tristesse d'arriver au dernier tome. En même temps qu'on se dit, l'intrigue était quand même bien tournée, le final couronnait le cycle. Il y a une tristesse de la fin, comme un élan coupé. Cet élan qui venait de la promesse d'une surprise, de découvrir encore quelque chose au-delà. Eh bien, le ciel, justement, n'est pas le lieu où c'est fini, il n'y a plus rien à découvrir. Le ciel n'est pas une sorte de parcage de camion-citerne. La soif n'arrête pas de s'y étancher, et à chaque fois, elle s'altère, elle reprend pour un plus haut rafraîchissement. Un père de l'Église grecque, Grégoire de Nice, expliquait « La faculté, nourrie par l'abondance des biens, augmente, et l'afflux des biens nourrissants s'achève par une capacité de réception chaque fois accrue. » Alors pour le dire autrement, l'Esprit-Saint qui nous comble, en même temps qu'il nous comble, augmente notre capacité et renouvelle notre soif. Et ce n'est pas un échec, ce n'est pas « je n'ai pas été désaltéré ». Il augmente notre capacité à être comblé de lui. Imaginez, c'est l'outre qui remplit se verrait conférer une capacité supplémentaire. C'était une outre d'un litre. Désormais, ayant été remplie, elle devient une outre d'un litre cinq, capable de recevoir encore plus. Pour le dire encore autrement, notre capacité à goûter, à contempler Dieu, s'accroît par le fait d'être comblé, et devient alors capable d'embrasser plus largement encore. C'est que nulle intelligence créée ne peut s'élever jusqu'à connaître l'essence divine autant qu'elle est connaissable. La créature en Dieu déborde au-delà de ses facultés naturelles, mais elle n'en devient pas pour autant infinie comme Dieu. Notre finitude ne disparaît pas au ciel, mais autant sur la terre elle est vécue comme un obstacle, autant au ciel elle se vit comme un perpétuel franchissement. Et saint François de Sales disait ceci, « Les esprits bienheureux sont ravis de deux admirations. L'une pour l'infinie beauté qu'ils contemplent, et l'autre pour l'abîme de l'infinité qui reste à voir en cette même beauté. Ô Dieu, que ce qu'ils voient est admirable, mais ô Dieu, que ce qu'ils ne voient pas l'est encore beaucoup plus. » Nous éprouverons combien en se donnant, Dieu nous excède encore, mais cet excès qui, ici-bas, est perçu négativement comme un défaut de connaissance, sera perçu positivement comme un surcroît. La joie d'avoir soif encore, de désirer encore dans l'amour, un peu comme le Fils est toujours tourné vers le Père. Et c'est une, dans l'Évangile selon saint Jean, se tourner vers le Père implique un mouvement. Il y a un élan au ciel, il y a un mouvement au ciel. Alors il y a parfois une deuxième question que nous nous posons. Est-ce qu'il y aura encore des choses à faire? Est-ce qu'il y aura encore des choses à faire au ciel? Dans l'Évangile, on entend Jésus qui dit ceci, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi. » Et c'était un jour de sabbat qu'il disait ça. Le sabbat n'était pas un repos d'inertie, mais un repos de fait. C'est un agir, une façon de faire qui n'est pas laborieuse, mais qui n'est pourtant pas sans profondeur. C'est une invention, mais sans peine. C'est une invention, mais avec une plénitude. Aristote disait que l'Éternel, le Dieu éternel, est acte pur. Eh bien, les bienheureux qui participent à la pureté de l'acte de Dieu, à son acte d'amour donc, sont en acte, sont agissants. Ils ne sont pas passifs, ils ne sont pas inactifs. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Tant que dure ce temps, le temps où nous sommes, le temps de la terre où nous sommes, eh bien, nous avons déjà quelques indices. Nous voyons que les anges ne sont pas indifférents ou insensibles à l'histoire de la révélation. Pensez à l'émerveillement des anges devant l'incarnation. Ils s'émerveillent de voir le Dieu infini prendre une chair finie. Ils s'émerveillent de voir l'engendrement du Fils au cœur de la matière. C'est le cri de joie de Noël, gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Ou encore, lorsque l'on voit un pécheur qui se convertit, Jésus dit « Il y a plus de joie pour les anges du ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Et donc il y a un lien entre les bienheureux du ciel et ce qui se passe sur la terre, qui est source d'émerveillement, de joie. Il y a une action de découverte, de louange aussi. Et puis vous connaissez ce que disait sainte Thérèse de Lisieux, « Je compte bien ne pas rester inactive au ciel. Mon désir est de travailler encore pour l'Église et pour les âmes. Je le demande au bon Dieu, et je suis certaine qu'il m'exaucera. Les anges ne sont-ils pas continuellement occupés de nous, sans jamais cesser de voir la face de Dieu, de se perdre dans l'océan sans rivage de l'amour? Pourquoi Jésus ne me permettrait-il pas de les imiter? Si je quitte déjà le champ de bataille, ce n'est pas avec le désir de me reposer. » C'est une charité à l'image du Christ qui lave les pieds. Le plus grand met sa vie, sa puissance au service du petit. Et ceux qui sont bienheureux au ciel participent de la grandeur de Dieu et mettent cette puissance au service de ceux qui sont encore au chemin. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Les saints du ciel nous portent dans leurs prières. Je voudrais insister là-dessus, tout particulièrement en ce temps. Nous bénéficions donc du soutien de tous les bienheureux qui sont au ciel. Et voyez, dans ce combat que nous menons sur cette terre, et dans l'édito vous pourrez lire, j'insiste sur le fait que le combat que nous menons n'est pas simplement un combat contre des hommes de mauvaise volonté, mais comme le dit saint Paul, c'est aussi un combat contre les puissances angéliques du diable. Eh bien, nous sommes soutenus par leur intercession, l'intercession de ceux qui ont vaincu le mauvais avec le Christ. Dans la première lecture, on entendait ceci, « Ils ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau, par l'arme de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils ont vaincu les ruses du mauvais. » Je crois que nous ne nous confions pas assez à l'intercession des bienheureux et des saints anges. Alors je dis ceci à partir de mon expérience personnelle, parce qu'il a fallu le séminaire pour que je comprenne ce que c'était que se confier à l'intercession des saints. Et il a fallu 15 ans de vie de prêtre pour apprendre à me confier à mon ange gardien. Donc je me dis, si j'ai eu du mal, je ne suis peut-être pas le seul. Mais c'est vraiment un secours que Dieu nous donne. La communion des saints est peut-être ce que nous avons à redécouvrir au moment où la société va nous plonger dans un certain isolement. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes portés par la communion des saints, par les bienheureux, par les saints anges. Donc je disais un peu ce que nous allons faire encore dans ce temps. Mais la question se pose, quand le Christ sera revenu en gloire, après son avènement, après la parousie, qu'est-ce qui peut encore exister? Un avenir si tout est advenu? Alors la chose peut nous sembler impossible, mais cela est dû à notre familiarité avec le péché et la familiarité avec un monde blessé par ce même péché. Nous n'arrivons pas à concevoir une histoire sans mal, une histoire sans résistance, une histoire sans lutte des classes, une histoire sans négatif à dépasser. Cela nous paraît une impasse, en fait, en raison d'une erreur que nous commettons. Nous concevons le paradis selon une logique du manque, alors qu'il faudrait le considérer avec une logique de surabondance. Car pour conférer un élan, ce qui tient lieu de mieux que du négatif, c'est l'hyper-positif de l'événement divin. Le négatif, au fond, n'est que retard, entrave. Ce qui emporte dans l'histoire la plus vive, ce n'est pas de surmonter le malheur, mais de ne cesser de surmonter son bonheur dans une joie plus haute. Comme disait saint Paul, « Allez de gloire en gloire ». La vie du ciel, puisque Dieu demeure dans l'éternité, le mystère à la fois sacré et dévoilé, n'est pas moins riche en tensions, ni moins dramatique pourtant, que l'existence terrestre avec ses obscurités. Les obstacles d'obscurité sont loin d'être aussi entraînants que des paliers de lumière. Nous allons être plongés dans la fécondité divine. Nous allons être plongés dans la vie trinitaire. Saint Paul dit encore, « Lorsque le Fils de l'homme remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance, les forces du mal, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. » Afin que Dieu soit tout en tous. Combien de fois nous faisons cette expérience, justement, nous, que dans notre vie, Dieu n'est pas tout? Et combien de fois dans nos relations, nous nous rendons compte que Dieu n'est pas tout en celui que je rencontre? Il y a des lieux d'obscurité, il y a des lieux de famine dans nos vies, dans nos façons de vivre, de regarder, de comprendre, d'user du monde. Dieu sera tout en tous, à la fois capacité de remplir, mais capacité d'accomplir, jusqu'à respirer en Dieu. Jusqu'à respirer en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'Esprit Saint informe, donne une forme à l'âme et la rend capable de produire en Dieu la même spiration d'amour que le Père accomplit dans le Fils et le Fils dans le Père, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Saint Jean de la Croix qui médite là-dessus. De cette respiration de l'Esprit dans l'âme procède le pouvoir de communiquer des univers. Chacun entre dans cette lumière qui fait naître la lumière. Chacun entre dans cette lumière du vrai Dieu qui engendre le vrai Dieu. Et alors nous participons à un cercle vertueux de la collaboration, de la communion. Parce que je reçois des autres leur façon d'exprimer la communion de Dieu. Puisque chacun de nous, nous sommes spécifiques, nous avons été créés à l'image du Fils unique. Donc il y a quelque chose d'unique en nous. Notre façon de recevoir et d'exprimer le mystère de Dieu que nous vivons est spécifique. Celui qui est à côté de moi ne vit pas exactement la même chose. Et donc quand il le révèle, je découvre quelque chose de nouveau. Quand je lui révèle, il découvre quelque chose de nouveau. Et puisqu'il m'a révélé quelque chose, moi-même dans ma connaissance de Dieu, je vais exprimer quelque chose de nouveau. Le cercle se produit et se reproduit de façon vertueuse. Au lieu de nous faire de l'ombre les uns aux autres, nous allons nous illuminer les uns les autres. Seigneur, en cette solennité de la Toussaint, vivifie en nous le goût, le désir du ciel, alors que nous allons traverser une période de désert par ce confinement. Que l'intercession des saints et leur multitude nous fasse hâter le pas sur le chemin de la sainteté. Tu nous appelles à partager ta propre vie et avec le don de ta grâce, cela est possible. Garde-nous de jamais l'oublier. Vivifie l'espérance de notre communauté, Seigneur. Nous croyons que dans cette marche au désert, tu es avec nous et que tu nous conduis vers la patrie céleste, notre patrie véritable. Que la communion des saints fortifie l'union de notre communauté pour que nous marchions vers ce ciel que tu nous promets. Amen.